Bonjour. Paul Corbino de Nantes, conteur sur bois. Je vais vous raconter une histoire, celle d'un échiquier d'apparat, où on va voir des pièces extraordinaires nous parler de Nantes, de Jules Verne, de la science-fiction et de l'autre monde, qui est le monde des plantes. Alors à Nantes, nous avons eu il y a quelques siècles une reine extraordinaire qui s'appelle Anne de Bretagne, que j'ai taillée dans du bois de palissandre. À ses côtés, à la place du fou ou de Bishop l'évêque, j'ai la grue jaune qui est sur le port de Nantes. Et il y a 40 ans, j'ai passé sous cette grue pour aller sur mon premier chantier où j'ai travaillé comme électricien. À ses côtés, à la place du cavalier, j'ai la girafe de Royal Deluxe. Une girafe marionnette qui s'est baladée dans les rues de Nantes au début des années 2000. Et puis, à la place de la tour, j'ai le château de Nantes, l'entrée du château de Nantes et la tour du port. Et puis, quatre fantassins, enfin, à la place des pions, j'ai mis une pièce qui rappelle l'histoire de Nantes. C'est pas la page la plus glorieuse, c'est l'histoire de l'esclavage. Nantes s'est enrichie grâce aux esclaves, au trafic d'esclaves. À ses côtés, j'ai une pièce avec un point levé et un vaisseau, une nef du XIIIe siècle, qui rappelle que Nantes a eu un grand chantier naval auquel j'ai travaillé, mais qui est fermé depuis 1987. Et puis j'ai un vieux tramway du temps de Jules Verne, un tramway qu'on appelait le Péril Jaune. Il allait très vite, il roulait à 30 à l'heure. Et puis à ses côtés, pour ceux qui connaissent, j'ai un petit biscuit, le petit biscuit Lu, de chez Lu, hein, et avec la tour, et il s'est transformé en fantassin, le biscuit devenant l'écu. Et puis donc, si ma reine c'est Anne de Bretagne, mon roi c'est Jules Verne. Jules Verne qui est né à Nantes, hein, au 19e siècle. Et Jules Verne, il a écrit des histoires fantastiques, hein, pour faire découvrir la science aux enfants à la fin du 19e. Et il a été un précurseur du monde d'aujourd'hui. À ses côtés, j'ai mis l'éléphant de 5 semaines en ballon. Hein, l'éléphant que les héros de Jules Verne ont croisé en Afrique. Et puis j'ai mis le calamar géant, hein, que le capitaine Nemo va rencontrer avec son sous-marin, le Nautilus. Et à ses côtés, j'ai mis à la place de la tour l'Albatros, hein, qui est un vaisseau volant. C'est l'ancêtre de l'hélicoptère. Et puis dans mes quatre fantassins, je retrouve le capitaine Nemo qui pilote l'œuvre de Jules Verne. Je trouve un ballon de 5 semaines en ballon, hein, qui va à découverte de l'Afrique. Je retrouve l'affiche de Méliès, hein, qui parle du voyage de la Terre à la Lune. Et puis enfin, pour Jules Verne, j'ai le voyage au centre de la Terre, hein, lorsque nos héros vont croiser une forêt de champignons. Après avoir regardé les pièces illustrant Nantes et Jules Verne, on va passer de l'autre côté de l'échiquier pour découvrir la reine. Là, ce sera Gaïa, la Terre-mère, hein, une représentation un peu du cosmos. À ses côtés, à la place du fou, j'ai un habitant de la Lune, un Sélénien, un extraterrestre. Et puis à la place du cavalier, j'ai la fusée de Tintin. Et enfin, à la place de la tour, j'ai une porte spatio-temporelle malstromique avec un vortex à double flux. En fait, c'est une porte pour passer d'un monde à l'autre en l'espace d'un instant. Et puis à la place des pions, je vais avoir un vaisseau intergalactique qui va passer d'une galaxie à l'autre, un vaisseau interstellaire. Et puis un habitant d'une autre planète, le Shingouz. Et puis une voiture photonique, une voiture qui marche grâce aux photons, parce qu'on a vu que pour le pétrole c'est foutu, il n'y en aura plus bientôt. Et enfin une pièce un peu étrange qui ressemble à rien, parce que je suis persuadé que la vie existe sur d'autres planètes, mais sans doute qu'elle prend une image qui nous surprendrait. Et enfin, l'autre monde pour moi, l'autre monde est sans doute un monde qui nous est plus proche qu'on ne pense. On voit l'autre monde dans une autre galaxie, mais l'autre monde, c'est sans doute le monde des plantes qui nous entoure. Et sur cette Terre, on pourra bientôt vivre à 9 milliards si les humains se réconcilient avec le monde des plantes. Et donc la Terre, là, repose sur une plante luxuriante. Là, le roi, c'est l'arbre, hein, l'arbre de vie, l'arbre cosmique, hein, l'arbre de la liberté. Hein, pour les humains, l'arbre, c'est vraiment le végétal essentiel. Et la grande question des humains, c'est est-ce que je scie la branche sur laquelle je suis assis en ce moment ? À ses côtés, à la place du fou, j'ai une fleur, la fleur de l'orchidée. Hein, la fleur de l'orchidée en bois de févier, un joli bois de parc. Ensuite, j'ai à la place du cavalier, j'ai une pièce qui représente la plante voyageuse, l'arbre qui voyage grâce à ses graines. Et puis enfin, à la place de la tour, hein, je vais avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un puits de carbone. C'est-à-dire dans un bout de bambou, j'ai mis de l'oxyde de carbone, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Cet oxyde de carbone qui est en surabondance dans l'atmosphère. Et si on plante des arbres, si on maintient les forêts, on va capter ce carbone pour vivre un peu mieux sur cette terre. Et enfin, pour les pions, donc le pion qui représente la planète qui vit grâce aux plantes. Un autre pion qui représente que les plantes gèrent l'eau. Il n'y a pas mieux qu'une plante pour éviter les sécheresses ou les inondations. Les plantes avec l'arbre produisent le bois. Le bois, c'est le bois de construction, le bois de notre maison, le bois de nos meubles, le bois de notre tournage ou le bois de sculpture. Et enfin, une pièce qui représente le caducée du médecin. C'est-à-dire que les plantes créent des molécules qui permettent de fabriquer tous les médicaments dont on a besoin. Et aujourd'hui, on est en train de rechercher en haut des canopées des forêts primaires les dernières molécules inventées par l'arbre pour essayer d'inventer les médicaments dont on a besoin pour se soigner. Donc on ne pourra jamais vivre sur cette terre sans les plantes. Et voilà. Donc mon jeu d'échecs qui exprime un peu cette histoire que l'autre monde, il est tout près de nous et il faut savoir le sauvegarder et vivre en bonne amitié avec lui.
Donc vous voyez que Paul vous a présenté là en quelques instants ce jeu d'échecs qui vous l'a présenté pièce par pièce. Vous pouvez le voir en réalité un petit peu de l'autre côté où il y a une exposition où il s'exprime. Et à l'écouter, on se rend compte que ce jeu d'échecs finalement a quand même deux grandes parties. Une partie très nantaise, hein, très nantaise avec Jules Verne, les éléphants, les éléments de Jules Verne. Et une partie qui représente un peu le monde et les mondes extérieurs, les mondes extraterrestres. Oui, c'est ça. Alors Paul, bon... Maintenant, on voit bien que tu es un passionné de ton travail, tu es un passionné et que tu es aussi un passionné du bois. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'abord de travailler le bois ? La première question, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de travailler le bois, sachant que, si j'ai bien compris, chaque pièce du jeu d'échecs a un bois particulier ?
Tout à fait. Là, sur les 32 pièces, plus l'échiquier, il y a 72 essences de bois. Et en fait, pour la petite histoire... parce que la grande histoire, c'est celle du monde, celle de Jules Verne, celle de la science-fiction. Et pour la petite histoire, quand j'étais enfant, j'ai passé mon enfance en haut d'un arbre, en haut d'un chêne qui était au milieu du pré de ma grand-mère, et à rêver, tout simplement. Et à l'âge de 12 ans, j'ai appris à jouer au jeu d'échecs. Et à ce moment-là, mon père a coupé le chêne, et j'ai mis des morceaux de chêne de côté. Et à l'âge de 14 ans, j'ai pris un ciseau à bois à mon père et je me suis taillé mon premier jeu d'échecs pour jouer avec mes copains. Alors ce jeu m'accompagne depuis 1966. Et puis après, j'ai appris le métier d'électricien et après, j'ai travaillé en entreprise. J'ai aimé beaucoup les livres parce que quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de difficultés par rapport à la lecture et ma maman m'a emmené à la bibliothèque municipale de Rezé et m'a dit « Tu vas te mettre à lire pour te dérouiller l'esprit ». Et c'est là que je me suis mis à lire Dumas, Jules Verne, Arsène Lupin, enfin tout ce qui me tombait sous la main. Et de fait, ça m'a débrouillé l'esprit. Et puis lire, c'est créer dans sa tête des images que veut évoquer pour nous l'auteur. Et lire, c'est très très important. Ce qui fait qu'après, quand j'ai travaillé en entreprise, tout de suite, j'étais impliqué dans les bibliothèques d'entreprise. Et j'étais à l'initiative de bibliothèques. Et c'est là que j'ai rencontré Georges. Georges qui était installé à l'époque rue des Hauts-Pavés et j'allais acheter pour mon entreprise des bandes dessinées et j'en ai acheté beaucoup pour moi-même et la bande dessinée j'en ai beaucoup lu à cette époque-là, plutôt les années 80, 90 et la bande dessinée m'a amené beaucoup d'images aussi, j'avais déjà beaucoup de choses dans la tête mais les images ont été importantes et donc l'histoire a commencé comme ça et puis il y a une quinzaine d'années la marotte m'a repris, je me suis mis à retravailler les bois, comme j'étais électricien je récupérais des essences de bois sur les chantiers et je me suis mis à sculpter des jeux d'échecs, puis de fil en aiguille j'ai fait ce que j'ai fait.
Mais alors ces sculptures en bois, donc tu en vois que tu as des influences quand même qui viennent aussi bien de la littérature comme Jules Verne et d'autres auteurs, de la bande dessinée parce qu'on retrouve Tintin, on retrouve les Shingus de Valérian dans ton jeu d'échecs, donc tu t'es inspiré de tout ça. Mais alors, est-ce que les bois, quand tu les as choisis pour les pièces, il y avait une raison précise de choisir tel bois pour telle pièce, ou alors que parce que c'est le hasard des bois que tu as trouvé?
Alors j'ai récupéré en fait beaucoup de bois, beaucoup de chutes de bois. Et en fait, quand j'ai un projet, comme je ne sais pas dessiner, il faut que je vais me promener, il faut que j'imagine la forme de la pièce que je vais sculpter. Et puis après, comme j'ai un grand stock de bois, un grand stock de chutes, ben je fais avec ce que j'ai. Et si je veux faire, par exemple, la grue titan qui est jaune, ben si j'ai récupéré du pois amarelo qui vient du Brésil, c'est une chute d'escalier, ben ça va convenir parfaitement. Et puis, si ma chute a une taille donnée, ben ça va donner la taille de ma pièce. En fait, je m'adapte avec les bouts de bois que je trouve, les projets que j'ai. Et puis, si je travaille le bois quand je sculpte ma pièce, si je trouve une jolie veine dans le bois, un détail, parce qu'en fait, dans l'arbre, tout est imprimé, toutes les anecdotes de la vie d'un arbre. Et donc, s'il y a des choses dans le bois qui se révèlent, ben, j'en tiens compte pour ma sculpture. Donc, en fait, c'est toujours un va-et-vient entre le bois et mes idées.
Ouais, c'est quand même assez extraordinaire quand même d'avoir pensé à le bois, les idées, le monde de la science-fiction. Mais comme ça, tout cela n'est pas vain parce que tu as aussi quand même une démarche assez, tu l'as bien dit, dans les bois. Il y a des plantes, par exemple, qui sont, comment dire, équitables ou qui servent contre les inondations ou pour garder l'eau. Tu as des choses dans ton jeu d'échecs qui est quand même une volonté de transmettre un message sur la conservation des bois, la conservation des forêts.
Tout à fait. En fait, quand j'ai eu l'idée de faire ce jeu sur Nantes, Jules Verne et la science-fiction, c'était Nantes, Jules Verne et la science-fiction. Et plus j'ai approfondi, je me suis dit, mais il faut que je donne du sens à ce que je veux tailler là. Et en fait, Nantes, Jules Verne et la science-fiction, ça suffisait pas. Puis à un moment donné, j'ai pensé, c'est lié à la science-fiction, à l'autre monde. Et puis comme je me suis passionné pour le bois, et plus je me suis passionné pour le bois, je me suis passionné pour les arbres. Et puis je me suis dit, mais en ce moment, le monde, c'est pas si facile. Et en fait, il y a le monde animal, il y a le monde végétal, il y a nous. Et le monde animal, il faut qu'on apprenne, le monde végétal, il faut le redécouvrir. Parce que ça bouge pas, a priori, mais il y a tellement de ressources dans le monde végétal pour permettre la vie sur cette terre. Et donc c'est là que ça m'a donné, c'est ce qui a déclenché la fabrication de ce jeu. Je me suis dit, mais bien sûr, l'autre monde, c'est le monde végétal. Et ce monde végétal permettra d'envisager l'avenir sans problème si on est raisonnable.
Oui, sans problème si on est raisonnable. Mais alors, ta passion pour Jules Verne, ta passion pour ce monde végétal aussi t'a amené à rencontrer Jules Verne, Nantes et son musée, dont Agnès est la directrice. Donc vous avez, Agnès, vous avez rencontré Paul, vous avez rencontré son monde inspiré de Jules Verne, et ça vous a donné l'idée de faire une exposition, de travailler avec lui sur une exposition autour de Jules Verne et la forêt.
Alors en fait, lorsque nous avons rencontré Paul, ce qui nous a frappé dès l'abord, c'est évidemment l'intérêt de la démarche, la beauté du travail. Je crois que c'est ce qui saute aux yeux de tout un chacun lorsque l'on voit le jeu. Mais quelque chose qui était encore plus profond, entre guillemets, pour nous, c'est-à-dire la parenté très grande entre la démarche justement de Paul en réalisant ce jeu et puis ce qu'est l'œuvre de Jules Verne dans ses aspects souvent peut-être les moins connus. Alors j'en prendrai deux exemples à partir des propos de Paul. C'est lorsqu'il dit, en présentant son jeu, la vraie question c'est de savoir si l'homme est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Or, en fait, la vraie question fondamentale posée par Jules Verne, c'est l'homme saura-t-il habiter le monde ? Voilà, on a évidemment une vision de Jules Verne très liée à l'aventure, une vision de Jules Verne très liée à la technologie. Tout ça est exact. Mais en fait, Jules Verne, il n'écrit son œuvre dans la deuxième moitié du XIXe siècle que pour se poser cette question fondamentale et philosophique. C'est-à-dire, est-ce que l'homme, dans ce contexte de progrès et de révolution technologique, saura apporter les bonnes questions. Donc ça, c'était véritablement une signification profonde, et c'est ce qui nous intéressait au premier chef de montrer. plus anecdotique peut-être, mais tout aussi signifiant, c'est quand vous dites, Paul, j'ai passé ma jeunesse en haut d'un arbre. Ben, Jules Verne aussi, dans ses souvenirs d'enfance, il raconte ça. Il dit qu'il allait chez son oncle Prudent, hein, qui avait une propriété de campagne à Brun, près de Nantes. Et lui aussi, il passait des heures et des heures à la cime des arbres, à rêver, à imaginer ce qu'était le monde et ce qu'il le serait. Donc il y avait vraiment des parentés très très profondes entre les deux démarches, et c'était très intéressant, au-delà même de ce qui pourrait apparaître comme un produit dérivé de plus de l'œuvre de Jules Verne, de mettre en parallèle les deux démarches. Et puis effectivement, dans un deuxième temps, on en est venu à concevoir cette exposition autour des forêts dans l'œuvre de Jules Verne, parce que le bois et les forêts, c'était un des thèmes de la fête de la science, et puis parce que ça faisait un prolongement parfait de l'exposition du jeu d'échecs.
Donc on voit quelques images extraites de l'œuvre de Jules Verne, où on nous montre justement ces forêts avec ces arbres gigantesques. Donc, cette exposition est actuellement au musée Jules Verne jusqu'à quand, Agnès, à peu près?
Alors là, l'exposition sur les forêts, elle est présentée jusqu'au 31 décembre. En fait, ce que vous voyez là, c'est un bois que Paul a sculpté à cette occasion pour l'exposition.
C'est une sculpture qui sert presque d'affiche ou de fronton à l'exposition.
Voilà, exactement.
Elle est installée dans l'exposition.
Dans l'exposition.
Et en fait, elle reprend les gravures qu'on a vues auparavant, là, sur l'écran. Et on retrouve, par exemple, là, on a une forêt de séquoia. Là, on a un fromager, et puis on a un autre arbre, c'est le troisième arbre, c'est un baobab. Et toujours utile que sur mon bas-relief, on retrouve ces trois arbres sculptés dans du cèdre, c'est-à-dire un cèdre qui a poussé à Nantes.
Voilà, en fait, l'exposition, c'est un parcours thématique dans l'œuvre de Jules Verne, et ça montre à travers les différents romans comment Jules Verne s'intéresse à cette question des arbres, souvent des grands arbres, parce que ça lui ouvre tout un tas de perspectives littéraires et métaphoriques, mais aussi qu'est-ce que les forêts, à quoi ça sert. Alors ça sert à mille choses dans l'œuvre. Ça sert de repère, puisque l'exploration est un des grands ressorts de l'œuvre de Jules Verne. Ça sert de ressources aussi, quand on se retrouve dépourvu de tout et qu'il faut reconstruire à partir de zéro. Et puis ça sert aussi à Jules Verne à créer une dimension qui pour lui est souvent très très importante, qui est la dimension fantastique. Et puis quand on lit l'œuvre de Jules Verne attentivement, on se rend compte que la dimension écologique aussi est très très importante. Voilà.
Donc dimension écologique qu'on retrouve actuellement avec quand même... Si on voit de par le monde, il y a beaucoup de forêts qui disparaissent, particulièrement Indonésie, Amazonie. Donc je pense que Jules Verne qui a toujours été visionnaire, et beaucoup de lui et d'autres auteurs de science-fiction ont souvent utilisé la forêt comme thème pour situer leurs histoires. Le fantastique, un des derniers exemples en cinéma, c'est Avatar. On pense qu'on veut du film, mais quand même, la forêt y est extrêmement présente.
Il y a un très joli arbre.
C'est quoi comme arbre, Paul ?
Là, c'est pas.
C'est un arbre, c'est un arbre qui n'existe pas.
Ouais, tout à fait. Non, c'est un arbre imaginaire, mais c'est un très joli arbre.
C'est un très joli arbre, oui. Pour revenir à quelque chose de plus technique et plus travail du bois. Bon, toi, tu te définis comme compteur sur bois, donc j'imagine que chaque pièce que tu fais, finalement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. T'as envie de raconter une histoire dans la pièce. Il y a une histoire, donc là, on voit un éléphant de Jules Verne, on a vu tout à l'heure les Shingus de Mézières, on a vu tout à l'heure la fusée de Tintin. Chaque pièce, pourquoi l'as-tu choisie et quelle histoire te donne envie de raconter?
En fait, c'est parti, j'ai pas pensé au départ ce que j'allais faire. Mais en fait, j'étais passionné par le jeu, j'ai commencé par sculpter des jeux d'échecs. Et puis au fil du temps, l'histoire des échecs m'a beaucoup intéressé, donc j'ai sculpté l'histoire des échecs du 6e siècle à aujourd'hui. J'ai 39 jeux, là ça c'est le 39e, et je me suis aperçu que de tailler le bois pour raconter quelque chose, ça avait quelque chose de passionnant. C'est-à-dire, j'ai tendance à dire, ça rien contre les œuvres d'art, mais faire une sculpture qu'on met sur une table, ça risque d'être un ramasse-poussière. Par contre, faire une sculpture qui raconte une histoire, c'est autre chose. Donc au fil du temps, je suis devenu compteur sur bois dans le sens où je taille dans mes bouts de bois des histoires. Alors c'est des histoires sur les échecs, j'ai taillé des histoires sur la forêt, sur les arbres au temps des Celtes, j'ai taillé une autre histoire là en ce moment sur, sur le chêne, la chenille de la phalène brumeuse, la mésange et le changement climatique. En fait, ça me motive et j'adore sculpter, mais il faut avoir un sujet. Et raconter des histoires, c'est un très joli sujet. Et en plus, si on peut raconter des histoires qui parlent aujourd'hui, qui interrogent. Alors, au début, d'ailleurs, je taillais mes pièces d'échecs dans le fond de mon garage pour jouer, tout simplement. Puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais ça n'a pas trop de sens, ton affaire, si tu ne les montres pas. » Et j'ai fait une première expo en 2001. Et en fait, en montrant mes pièces et en racontant l'histoire qu'il y avait au travers de ces sujets en bois, j'ai vu que ça avait un intérêt pour moi et pour les autres. Donc maintenant, j'adore être dans le fond de mon atelier à tailler mes bouts de bois, mais j'adore vous raconter l'histoire aussi.
Donc, compteur sur bois, voilà quand même un beau métier maintenant et une belle aventure. Donc, le fait de compter, de faire ces histoires sous bois, ça t'a quand même entraîné à faire des connaissances, à aussi approfondir ta connaissance du bois. Et alors, quand tu as approfondi cette connaissance, quelles ont été tes recherches? Tu as rencontré quand même des spécialistes, tu as rencontré des gens qui t'ont quand même éduqué dans cette histoire de ce matériau qui est quand même assez extraordinaire finalement.
Parce qu'il nous vient du vivant. À propos, j'ai travaillé à peu près tous les bois du monde, y compris un morceau de bois d'Indonésie que Georges m'a ramené, avec une jolie écorce qui rappelle les crocodiles. Et il est toujours dans le fantastique, Georges. Et en fait, j'ai commencé, comme je suis électricien, j'ai passé mon temps, entre autres, à dépanner les machines, à se demander comment ça marchait les machines. Et quand je suis passé au travail du bois et à tailler le bois, je me suis dit, mais ce bois-là, mais comment l'arbre l'a fabriqué? Et donc, je me suis intéressé au bois lui-même. Je l'ai observé à la binoculaire, au microscope. Et j'ai taillé plus... Aujourd'hui, je suis rendu à 780 essences de bois différentes. Toutes des chutes qui viennent du monde entier, y compris d'Indonésie, grâce à Georges. Et donc, au fil du temps, j'ai voulu comprendre comment ça marchait dans l'arbre. Et en fait, dans l'arbre, qui c'est une plante ligneuse qui fabrique du bois, c'est extraordinaire. Et donc, je me suis mis intéressé à l'anatomie des bois. Et au fil du temps, j'ai approfondi le sujet. J'ai fait un grand livre sur le bois, qui était à la médiathèque d'ailleurs, et qui raconte comment l'arbre fait son bois et qui montre l'esthétique des bois. Et là, en ce moment, au Muséum de Nantes, j'ai travaillé sur la vieille exposition de bois, les planchettes de bois du 19e siècle, hein, avec Marie-Laure, qui est la responsable du bois. On l'a tout remis au goût du jour. Et là, en ce moment, on fait des animations autour du bois. Mercredi prochain, je fais Parlons Bois au Muséum. Et en fait, je suis devenu un spécialiste du bois. Au Carrefour International Bois, c'est moi qui tiens le stand sur les identifications. Mais tout ça parce que j'ai travaillé petit à petit les différents bois, que j'ai cherché à comprendre. Et mon prochain projet par rapport au bois et aux plantes, c'est de tailler une cellule végétale de l'arbre, mais le grossir 100 000 fois. Et donc, la prochaine fois que vous allez me voir avec une immense sculpture qui va parler d'une cellule fondamentale pour les plantes.
Bon, c'est assez extraordinaire quand même comme travail. Et vous, Agnès, au musée, donc l'exposition travaille sur Jules Verne et comment dire les forêts et l'univers des forêts dans l'œuvre de Jules Verne. Et comment vous l'avez conçue cette exposition et comment vous l'avez organisée pour qu'elle soit quand même dire le plus fidèle possible à cette œuvre, chose que vous savez faire.
Alors en fait, je vais dire quelques mots sur l'exposition, mais je voudrais revenir un petit peu sur le travail de Georges parce qu'il y a quelque chose d'important il me paraît très important de dire le fait que ça prenne la forme d'un jeu d'échecs. C'est également signifiant parce que ça nous renvoie en fait au hasard et à la nécessité. Et ça, c'est quelque chose que Jules Verne aimait utiliser dans ses scénarios. Le jeu, pour lui, il est souvent très très présent dans le fil du scénario. Il utilisait en particulier le jeu de loi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour lui une image de la destinée humaine dans ses aspects règles auxquels on doit se plier, et puis en fait hasard et aléa de ce que l'existence peut nous apporter. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Le jeu d'échecs, c'est vraiment cette image de la vie, De la vie dans sa confrontation avec, avec autrui, de la vie dans ses aspects obéissant à des règles, mais aussi qu'on peut mener par son intelligence, parce qu'on fait une bonne partie ou on en fait une mauvaise. Et ça, ça se retrouve très fondamentalement dans les ressorts que Jules Verne existait. Alors justement, quand on conçoit un parcours thématique comme celui de la forêt, mais les parcours thématiques, on les renouvelle très, très régulièrement. Et après la forêt, on aura un parcours thématique sur un thème différent qui sera à table, qui compte aussi beaucoup dans l'œuvre de Jules Verne, où on s'intéresse beaucoup à la nourriture, quelquefois par gourmandise, quelquefois pour survivre. Donc ce que nous faisons, en fait, c'est que nous proposons, à travers des romans qui sont connus, d'autres qui ne sont pas connus, de mettre en évidence tel ou tel aspect. Donc, comme je le disais pour les forêts, on va expliquer, par exemple, toutes les images magnifiques que Jules Verne tire de la description de la nature qui l'environne, parce que c'était un homme qui était extrêmement sensible à cette dimension dans ses différents aspects, c'est-à-dire la nature dans ce qu'elle a de poétique, la nature dans ce qu'elle lui permet de trouver des décors, souvent très spectaculaires, pour mettre en œuvre les intrigues. Et puis la nature aussi, et c'est là qu'on retrouve la dimension écologique, dans le fait que l'épuisement des ressources naturelles, ça n'est pas un vain mot, et que si on n'y prend pas garde, effectivement, on épuisera la nature et on se privera des conditions de la vie sur Terre. Voilà. Et puis, effectivement, il y a d'autres aspects peut-être plus littéraires ou plus, enfin moins directement, en tout cas écologiques et naturels, qui sont la dimension fantastique, parce que Jules Verne, qui était un disciple en particulier d'Edgar Poe, aimait créer des intrigues. Alors, il y a un roman en particulier qui est important pour ça, qui est, je crois, assez connu, qui est « Le Château des Carpates ». Toute la forêt qui environne le château est utilisée dans ses moindres recoins pour créer en fait le mystère qui va permettre de porter l'intrigue. Ce que le parcours là, sur les forêts permet de découvrir également, c'est un roman fort peu connu qui s'appelle « Le village aérien », qui est un roman de la fin de la vie et de l'œuvre de Jules Verne, publié au tout début du XXe siècle, et qui met en fait en scène la grande forêt d'Afrique de l'Ouest et qui interroge la question du chaînon manquant. Voilà, c'est un roman, je pense, qui est très très peu connu et qu'il faut vraiment lire parce que c'est inattendu. Et en plus, ça a inspiré des auteurs du XXe siècle et en particulier Raymond Roussel pour Impression d'Afrique. Voilà, on s'efforce toujours de faire connaître Jules Verne, pas simplement dans ses aspects connus, évidemment on s'appuie, mais aussi dans les aspects moins connus, et c'est la manière dont on procède.
Donc je vous encourage à aller voir cette exposition quand même le plus vite possible. Et toi, bon Paul, quand on voit tes pièces d'échecs, bon, tu me dis que tu es à ton 39e jeu d'échecs. 39e jeu d'échecs. Alors est-ce que chacun a une logique? Bon, les premiers, tu as fait des jeux d'échecs traditionnels ou tu avais déjà des inspirations? Non. Tu avais déjà quelque chose qui venait, que tu avais envie de dire dedans, dans les tout premiers?
En fait, j'ai commencé par faire les jeux d'échecs qui existaient ailleurs, que je ne pouvais pas me procurer. J'ai fait le Xiangqi chinois, qui est le jeu d'échecs le plus joué au monde, actuellement. La loi des nombres est en faveur des Chinois. Et c'est un jeu passionnant pour les gens qui aiment bien les échecs. Il y a aussi le jeu le Shogi du Japon. En fait, j'ai commencé par faire les jeux d'échecs qui existaient ailleurs, et je voulais jouer avec. Après, il y a eu un certain nombre de variantes. Par exemple, Tamerlan, là, au XIVe siècle, il a fait un grand jeu d'échecs. Et il jouait avec, et qui est assez fabuleux. Donc j'ai commencé par faire des jeux d'échecs d'ailleurs, soit classiques ou variantes. Et puis après, je me suis intéressé à l'histoire du jeu d'échecs.
Une petite question entre nous. Ces jeux d'échecs que tu as fait les tout premiers, comme tu parles du jeu chinois, du jeu japonais ou du jeu de Tamerlan, les pièces, ce sont des pièces qui sont stylisées ou qui ont déjà des particularités? Par exemple, les pièces chinoises, les pièces japonaises, est-ce que ce sont des pièces standards, je veux dire avec des standards, ou est-ce qu'elles ont déjà quelque chose de très original?
C'est pas pour rien que j'ai commencé par ces jeux, parce qu'en fait, le gros avantage en Asie, c'est qu'ils jouent avec des jetons. Donc c'est très très facile à faire. C'est des petites pièces plates et il faut faire un petit idéogramme dessus pour reconnaître le personnage. Donc en fait, ça montre comment j'ai commencé. Comme je suis électricien, je ne suis pas sculpteur. Donc j'ai commencé par les jeux les plus simples, mais pour jouer avec. Et en fait, l'avantage des jeux asiatiques, ce n'était pas compliqué à faire. En fait, les figurines, on va plutôt les trouver en Occident.
Ok.
Donc dans l'histoire des échecs, ou alors dans le premier temps des échecs en Inde au 6e siècle, où on va retrouver l'éléphant, le char, le cavalier et le fantassin. Mais donc au fil du temps, après, j'ai fonctionné en fonction des découvertes archéologiques. Donc j'ai plein de pièces où j'ai reconstitué des jeux en fonction des découvertes archéologiques. Par exemple, j'ai un jeu, on peut jouer, qui a été trouvé à Noyon. Et c'est un jeu extraordinaire parce que c'est les jeux avec lesquels les chevaliers au XIe siècle apprenaient l'art de la guerre sur une motte à Noyon. Et donc j'ai reconstitué et donc on peut jouer comme ces chevaliers-là au XIe siècle avec les formes de l'époque. Donc là j'ai fait plein de jeux plutôt historiques. J'ai même fait des jeux d'apparat historiques. Entre autres, on a un jeu d'apparat extraordinaire qui s'appelle le jeu de Charlemagne, qui est actuellement exposé au cabinet des médailles, qui est un jeu du XIIe siècle, qui a été taillé par des artisans italiens à Salerne, qui est en ivoire d'éléphant. Et la plus grande pièce, le roi fait 1 kilo. Alors c'était des jeux d'apparat, parce que le jeu d'échecs était trop grand. Donc je me suis mis à amuser à faire toutes ces pièces. Donc j'ai au moins, j'ai presque 1 millier de pièces historiques. Et puis après, dans la foulée, quand j'ai vu tous ces jeux dans l'histoire et énormément de variantes, je me suis dit, mais pourquoi pas des jeux plus modernes? J'ai moi-même inventé un jeu qui s'appelle Le Diplomate, où en fait c'est un jeu contemporain où le roi se transforme en président, la reine en diplomate, ça n'empêche pas les guerres. Et j'ai aussi inventé alors, un jeu fantastique, un jeu fantasmagorique, et j'ai inventé le Galaxien. Le Galaxien, c'est un jeu d'échecs qui se joue au 22e siècle, où là, les cases se sont transformées en planètes, et où là, mes pièces d'échecs jouent dans le vide interstellaire, et le but du jeu, c'est de gagner la partie toujours, mais là, c'est le premier qui a planté 8 arbres dans la galaxie de l'autre. Parce que quelque part, si les humains pouvaient penser à planter des arbres plutôt qu'à se faire la guerre, ça irait mieux sur cette planète.
Donc tu as toujours un côté humaniste et de faire prolonger l'humanité et de faire que les arbres continuent à vivre et qui sont nécessaires à notre vie. Quoi.
Ah bah, de toute façon, le jour où il n'y aura plus d'arbres sur Terre, je ne pourrai plus sculpter de jeux d'échecs en bois et ça serait quand même dommage.
Ouais. Alors, mais tous ces jeux dont tu parlais, tu as parlé d'ivoire, est-ce qu'il y avait des matières assez extraordinaires dans ces jeux?
Alors, c'est intéressant ça. Alors d'une part, je pourrais dire que Jules Verne, il commençait déjà à s'inquiéter des éléphants.
Mmh. Ouais,
le trafic d'ivoire, dans le village aérien, il s'inquiète du fait qu'on tue tous les éléphants. Qui fait qu'à un moment donné, il fait qu'un éléphant va écraser un tueur d'éléphants. Donc Jules Verne était déjà sensible à ça. En fait, il y a eu plusieurs périodes dans le jeu d'échecs. Et dans la première période du jeu d'échecs, pratiquement jusqu'au Moyen-Âge, les pièces d'échecs étaient taillées dans des matériaux qui nous venaient de l'humain, de l'animal. De l'ivoire, les dents, parce qu'en fait, quelque part, à l'époque, le jeu, il était un peu sanguin. C'était la guerre. Et en fait, c'est intéressant, le bois, il est arrivé dans un second temps, quand le jeu s'est un peu apaisé. Et en fait, le bois, comme les plantes, ça amène la paix. Et en fait, par exemple, au Café Régence à Paris, au 19e siècle, quand on jouait avec des pièces, c'était des pièces en bois qui étaient tournées. Et à une période où le jeu sur l'échiquier s'était apaisé. Donc en fait, on a utilisé toutes sortes de matériaux. Alors après, il y a le fait aussi que dans la première période, on a retrouvé des pièces en ivoire. Et les quelques pièces qu'on a trouvées en bois, elles étaient au fond de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'eau qui protège les pièces en bois. Par contre, il y a eu un jeu, et ça c'est assez rigolo, il y a un jeu qui a été retrouvé au fond du lac de Paladru, à Charavine, près de Grenoble, et en fait qui date du Xe siècle. Alors c'est assez extraordinaire parce que c'est un jeu qui est taillé dans du bois de noisetier, l'arbre du bord de chemin. Et un jeu avec les formes des pièces sont sans prétention. Mais il copie tout à fait le jeu qu'on reçoit d'Orient avec les formes de type arabe. Des formes assez épurées, parce qu'on n'avait pas le droit à la figuration à l'époque à cause de la religion musulmane dans l'Empire arabe. Et ces pièces, elles sont très simples, elles sont taillées dans du noisetier, on est au Xe siècle. Alors c'est peut-être le chef du village à Charavine qui joue aux échecs. Mais le jeu d'échecs, dès qu'il est arrivé, il était relativement populaire. On a retrouvé aussi, du côté de Bordeaux, au château de Comarque, en haut d'un château, un échiquier tracé à même la pierre des créneaux. C'était un garde qui devait s'ennuyer et qui avait tracé un jeu d'échecs et qui devait jouer aux échecs. Donc le jeu d'échecs était assez populaire. Sans doute qu'il a été taillé en bois, En plan archéologique, on en a trouvé peu parce que le bois se désagrège. Et on a trouvé plutôt des pièces en ivoire. Mais on fait de plus en plus de découvertes. Et entre autres, on fait de plus en plus de découvertes en Europe. Parce qu'avec comment en ce moment dans la vie sur cette planète n'est pas simple, ne serait-ce qu'en Égypte ou ailleurs. Et donc, il y a beaucoup d'archéologues qui se sont recentrés sur l'Europe et ont fait plein de découvertes actuellement sur des pièces d'échecs Donc, j'ai encore sans doute beaucoup de pièces à sculpter.
Oui, tu as sans doute beaucoup de boulot, je pense, là-dessus. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'un jeu d'échecs où tu mets en scène des galaxiens. Est-ce que tu as essayé d'imaginer ce que pourrait être un jeu d'échecs dans l'avenir, dans les millénaires qui viennent? On a vu des représentations dans des films ou même en lisant des romans ou dans des BD de jeux tridimensionnels, quadridimensionnels, avec des choses qui disparaissent, avec l'arrivée du numérique et des choses comme ça. Là, je parle uniquement du jeu d'échecs. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer des jeux absolument extraordinaires, même si avec des représentation de bois?
Sans doute influencé par la science-fiction, que j'ai peut-être bien lu dans tes BD que tu me refilais à l'époque, en fait, j'ai fait un jeu d'échecs qui s'appelle le jeu fantasmagorique, où en fait, je repars d'aujourd'hui, avec les connaissances d'aujourd'hui, avec ma connaissance de l'histoire, et je retrouve au Moyen-Âge, où en fait, j'ai un jeu d'échecs où j'ai 4 châteaux, un champ de bataille, et pour montrer le côté futuriste, là, c'est plus un roi, en fait, c'est le pion qui a pris le pouvoir. Il y a un pion, et puis au côté du pion, il y a 2 magiciens, et puis il y a une bombarde, et puis, je me rappelle même...
La bombarde, c'est pas l'instrument de musique, quand même.
Non, c'est un bon vieux canon. Alors, il y a des tours soldats, et il y a un bateau, et puis j'ai pas pu m'empêcher de mettre un arbre. Et dans mon jeu, l'arbre, c'est l'arbre protecteur, c'est-à-dire que l'arbre, le magicien peut le déplacer pour mettre l'arbre de telle façon que ça va empêcher l'attaque de l'adversaire. Donc, au bout du bout, dans mon histoire, c'est que c'est le pion qui a pris le pouvoir. Et ce qu'il faut se dire, que si on devait inventer aujourd'hui un jeu d'échecs, si on devait faire comme le créateur du jeu d'échecs qui a regardé ce qui se passait sur le champ de bataille en Inde, où il y avait 4 corps d'armée, les éléphants, les cavaliers, les chars et les fantassins. Et aujourd'hui, si on regardait sur le champ de bataille, eh bien, en fait, il suffit aujourd'hui de mettre un bonhomme dans un avion avec une bombe atomique et la donne, elle change. Donc, mon jeu d'échecs, par exemple, qui est le diplomate, le pion, quand il est promu, il devient roi. Parce que quand il est dans son avion, s'il lâche la bombe, c'est catastrophique. Il a le pouvoir. Alors, c'est complètement effrayant.
Donc, jeu d'échecs apocalyptique, un peu, non? Finalement, pas fantasmagorique.
Les histoires de guerre, c'est jamais très rigolo.
Hein. Non, ça finit toujours mal pour beaucoup de gens. Hein. Ouais. Bon, et Paul, écoute, puisque tu te définis comme conteur sur bois, je crois aussi que tu es conteur tout court, et je crois que tu avais une petite histoire à nous raconter. Ça va prendre quelques minutes.
Oui, j'ai une petite histoire. Ça va, vous tenez le coup? Alors, les techniciens vont me passer une jolie petite image dans mon dos. Hein, ça va permettre de mieux comprendre. En fait, je vais vous raconter une fable. C'est la fable du chêne, de la chenille, de la phalène brumeuse, de la mésange charbonnière. Il était une fois Quercus Robur, le chêne pédonculé. Opéroptera brumata, la chenille de la phalène brumeuse, un papillon. Parus major, la mésange charbonnière avec une jolie cravate noire. Les aventures de nos 3 compères se déroulent aux Pays-Bas, sous le règne de Climatis, sur la période 1980-2005. Au début de notre histoire, au XXe siècle, en 1980, après l'ouverture des écailles protectrices de ses bourgeons, le chêne développe ses feuilles dès le printemps. Dans les fissures de l'écorce de ses branches, la chaleur éveillant la chenille de la phalène brumeuse, elle déchirait l'enveloppe de son œuf minuscule pour arpenter les rameaux et dévorer les feuilles vertes et tendres du chêne. Sensible à la lumière printanière, la mésange pondait ses œufs tachetés dans un nid douillet, bien à l'abri, dans l'ancien trou d'un pic. Lorsque ses oisillons, affamés, brisaient à coups de bec leurs œufs, la mésange et son compagnon volotaient dans la frondaison du chêne à la recherche des chenilles gavées de protéines. Anémophile, qui aime le vent, le chêne en fleurs profitait peut-être de toute cette agitation
pour assurer la pollinisation de sa minuscule fleur femelle au bout d'un long pédoncule. Le pollen est produit par les fleurs mâles, des chatons jaunâtres et pendants. Au bout d'une quinzaine de jours, les petites mésanges, bien nourries, prennent leur envol pour assurer l'avenir de leur espèce. La chenille de la baleine brumeuse, qui échappe au massacre, s'enterre au pied du chêne pour opérer sa métamorphose en insecte parfait dans son cocon. Puis le papillon surgit de la chrysalide sous forme d'une femelle ou d'un mâle. La femelle, aux ailes atrophiées, grimpe dans l'arbre tout en diffusant des phéromones pour attirer un mâle ailé. Celui-ci va la féconder et elle ira pondre ses œufs bien à l'abri dans une fissure afin de renouveler son cycle après l'hiver. Une aubaine pour les mésanges charbonnières de cette histoire. Mais c'est sans compter sur le climat. Depuis la nuit des temps, il évolue lui aussi, avec des cycles liés à l'environnement sur Terre. Aujourd'hui, cet environnement est bousculé par les activités humaines, assoiffé d'énergie fossile, le charbon, le gaz naturel, le pétrole. Ainsi, le dioxyde de carbone emmagasiné sous terre dans les temps anciens est libéré dans l'atmosphère et participe au réchauffement climatique. Quelques degrés d'écart de température en peu de temps et des équilibres subtils se transforment. Suite à des études scientifiques, la poursuite de notre histoire, taillée dans le bois, dévoile des bouleversements en cours au cœur de la chaînée, avec nos quatre acteurs. Le chêne, la chenille, la mésange et le climat. Avec le réchauffement climatique, maintenant la chenille pointe ses mandibules 3 semaines plus tôt dans les rameaux du chêne, dont les bourgeons attendent encore le printemps pour débourrer 1 semaine en avance. La mésange, fidèle à ses principes, déclenche la grande affaire de la nidification aux critères imperturbables de la lumière, lié au cycle du soleil, indifférent à notre grand bazar sur Terre. Pendant une quinzaine de jours, c'est la disette pour les chenilles de la phalène brumeuse installées sur les chênes, avec leur tenue hivernale. Lorsque les oisillons pointent leur bec, leurs parents recherchent en vain les chenilles bourrées de protéines des années précédentes. Celles qui ont survécu de la pénurie des feuilles se sont déjà transformés en chrysalides au pied de l'arbre et les petits de la mésange crient famine. Alors, est-ce la fin d'une histoire? Des forestiers constatent aujourd'hui une évolution. Des chenilles en retard se régaleraient des feuilles de chêne plus précoces au profit de mésanges en avance sur leur horloge solaire. Affaire à suivre.
Merci beaucoup, Paul. Bon, écoute, on va conclure un petit peu cet entretien, mais comment te dire, l'histoire que tu viens de nous raconter met bien en scène tout ce que tu nous as dit avant, tu le résumes très bien sur l'évolution, mais alors, si les choses continuent telles qu'elles vont dans le mauvais sens où tu nous le décris, que vont devenir les bois, que vont devenir les mésanges, que vont devenir les chênes, que vont devenir tous les arbres et toutes ces essences que tu essayes, toi, de protéger, finalement, par ton travail à ton échelle, finalement, avec tes jeux d'échecs et tes jeux de stratégie, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passera dans les quelques années pour que, finalement, ce que tu viens de faire, et toi, tes enfants et tes petits-enfants, puissent trouver une planète dans laquelle ils pourront s'exprimer et trouver quand même la vie, quoi?
Très bonne question. Non, en fait, oui, il y a de quoi se préoccuper. Parce qu'en fait, avec l'évolution du monde, le monde s'est diversifié. Et il s'est diversifié à l'infini. Et aujourd'hui, on a une biodiversité, entre autres dans les forêts primaires, qui est fabuleuse. Sauf que plus la vie se diversifie, plus elle est complexe, plus les nouvelles formes de vie se nichent dans des petites niches, et plus les changements qui sont un peu trop brutaux mettent le bazar. Il suffit de prendre une seule image, la dernière guerre. Il y a une bombe atomique qui est lancée à Hiroshima. La seule plante qui a survécu à cette bombe, c'est l'arbre qui s'appelle le Jingo Biloba. En fait, le Jingo Biloba, il nous vient du début de l'ère secondaire. c'est un arbre à la structure la plus simple. La plus simple, et ça lui a permis de résister à un cataclysme. Et quand la vie se complique, se diversifie à l'infini, elle est plus fragile. Et c'est le drame d'aujourd'hui. Le drame d'aujourd'hui, c'est que des petits changements de rien, et c'est ce que je raconte avec mon histoire de mésange, à partir du moment que la vie est belle et qu'elle est complexe, eh bien, elle est très fragile. Et plus que jamais, il faut la protéger. C'est sûr qu'il y a certaines plantes qui vont survivre. Il y a certains animaux qui vont survivre. Mais nous, les humains, on est très fragiles.
Merci, Paul. Agnès, donc, on trouve aussi, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Jules Verne, et dans son œuvre, on trouve aussi des soucis de protection, des soucis d'écologie dans l'œuvre de Jules Verne, et qui sont complètement d'actualité plus d'un siècle plus tard. Et on retrouve toutes ces préoccupations dans beaucoup de romans de science-fiction actuels ou même de bandes dessinées et de films, quoi. Donc je crois que finalement la préservation de la nature, la science-fiction, le fantastique essaye quand même de le faire différentes manières.
En tout cas, ça interroge sur les conditions de vie sur Terre, effectivement. Et ça, c'est une dimension très très importante de l'œuvre de Jules Verne qu'on oublie peut-être ou qu'on méconnaît. Ouais, mais pour lui, c'était une préoccupation absolument fondamentale, oui.
Oui, parce qu'on connaît plus le capitaine Nemo, des choses qui sont plus de l'aventure.
Le capitaine Nemo lui-même s'interroge sur l'épuisement des ressources, par exemple, des océans. C'est parce qu'en fait, la dimension un peu spectaculaire ou d'aventure, ouais, peut-être aussi la connaissance un peu hollywoodienne, hein, qu'on a de l'œuvre de Jules Verne, fait oublier ça. Mais pour lui, c'était absolument fondamental, oui.
Ouais, ok. Ben merci.
Et juste un tout petit mot.
Je t'en prie, Paul.
Non, pour dire, si la vie, elle est dure, n'oubliez jamais qu'elle est belle.
Absolument. Merci, Paul. Ben écoutez, s'il y a des gens qui ont quelques questions dans la salle ou qui veulent poser des questions à Paul sur son travail, sur ce qu'il fait. Moi, c'est une question très simple, Paul. Tu mets combien de temps à sculpter une pièce? Parce que ça aussi, c'est...
Tout dépend de l'œuvre à réaliser. Si je dois tailler dans un bout de bois... ton buste, ouais, eh ben, t'as une si jolie tête que ça va me demander un bout de temps.
Hein. Avoir du mal à retransmettre tous les défauts.
Non, en fait, tout dépend de l'objet. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'apprentissage. Aujourd'hui, je peux faire des choses assez rapidement. Hein, j'ai fait une fresque pour le musée Jules Verne, je fais très rapidement. Mais ça, j'ai 15 ans d'apprentissage. Faut avoir accepté tout le temps. Enfin, en fait, c'est pour ça que le temps, c'est le temps donné qui est avant. Et aujourd'hui, je peux sculpter des choses assez rapidement. Mais encore que, il faut pas vouloir avoir fini avant d'avoir commencé. Et tout dépend de la figuration. Mmh. Hein, ça dépend. Et puis après, le plus long, éventuellement, c'est pas de sculpter. Le plus long, c'est d'avoir une idée, c'est d'avoir un projet. Sculpter quoi? Pourquoi? Pour représenter quoi? Et en fait, moi, ce qui est le plus long pour moi, c'est toute la recherche au niveau idée. Pour tailler mon fameux jeu qui est exposé ici, j'ai passé 4 ans. Il a mariné 4 ans dans ma tête et je l'ai sculpté sur une année pour l'équivalent d'à peu près de 3 mois de travail. Mais en fait, ce qui est long, c'est de prendre le temps de recevoir, de créer des personnages. Et pour ça, il faut aller vers les autres. Parce qu'en fait, on n'apprend jamais rien tout seul. Il faut aller vers les livres, il faut aller à la rencontre des autres. Je fais plein de choses avec plein de gens dans le monde du bois. Hein, il faut aller se promener dans les forêts. Mais en fait, j'ai commencé à tailler des barreaux d'échelle pour faire des pièces toutes simples. Et maintenant, je taille des chutes de poutres pour faire Jules Verne. Mais en fait, ce n'est pas une question de temps. Le temps, en fait, le temps, c'est ce qu'on a plus de précieux sur Terre. Et le temps, on a toujours tout le temps qu'on veut pour faire ce qu'on a à faire.
Bon, ben, merci, Paul, pour cette petite leçon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous... Voilà. Bon, ben, écoute... Oui, je vous en prie.
Pour le métier, je suis électricien. Bonjour. Et c'est un petit lien avec Jules Verne dans le sens où lui, bonjour, il adorait la fée électrique.
Bonjour. Dans quelle forêt vous vous baladez? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de forêts dans la région. Vous êtes de Loire-Atlantique?
Oui. Eh bien, je vais vous donner un petit conseil. Allez voir ma cathédrale. Ma cathédrale est à la forêt du Gove. L'ONF a préservé une vieille futaie où les arbres ont commencé à pousser là-bas au XVIIIe siècle... Hein, et vous avez des magnifiques chênes qui montent à 45 mètres de haut, des chênes Cécile. Et en plus, l'ONF a fait un petit parcours dans cette cathédrale, pour moi, qui est magnifique. Donc, c'est tout simplement à côté de l'arboretum de la forêt du Gave. Vous allez tout simplement vous balader dans la forêt de Touffou, là, dans la banlieue. Elle est magnifique, la forêt de Touffou, avec des pins, des hêtres, des chênes, des charmes.
Merci.
Agnès, vous avez quelque chose à dire pour conclure ? Ça va aller, bah. Merci à tous, merci de... Si d'autres questions, peut-être ?
Bon, merci à
vous pour votre attention. Merci Paul, merci Agnès.